Place Info.
Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à tous.
Y aura-t-il des trains à Noël ?
Alors, vous faites référence à l'annonce de la CGT Cheminots qui a dit hier vouloir poursuivre la
sur
grève.
Sur cette antenne.
Absolument, au-delà de Noël. Elle portera cette responsabilité devant les Français. J'observe que, d'abord, je dis que je trouve naturel que la CGT Cheminots défende le régime spécial de la SNCF notamment. Mais moi, je ne sais pas expliquer, par exemple, pourquoi aujourd'hui, un comptable de la SNCF peut partir à compter de 57 ans, alors que c'est 62 ans pour tous les Français. Je ne sais pas l'expliquer, je crois que les Français ne le comprennent pas. Et puis j'observe aussi que d'autres syndicats disent différemment. Hier matin, Laurent Berger, donc le patron de la CFDT, le secrétaire général de la CFDT, a dit vouloir se mobiliser le 17, mardi prochain, mais a dit aussi respecter le droit des Français de partir en vacances. Et donc à appeler à la suspension du mouvement. Donc je vous dis qu'il ne faut pas avancer masqué dans cette séquence. Les Français savent ce qu'il se passe. Vous savez que le gouvernement assume de porter une réforme qui est ambitieuse mais qui est difficile. Et la CGT Cheminots doit assumer ce jusqu'au boutisme-là.
Renaud Dely.
Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui apporter de garantie aux Français qui s'apprêtent à partir en vacances dans une semaine tout juste pour savoir s'ils auront un train ou pas. Le gouvernement n'en sait rien.
Ce que je veux dire aux Français, c'est que le gouvernement est depuis le début extrêmement loyal dans cette négociation. J'avais pris des engagements très clairs avec les syndicats de la SNCF et de la RATP, notamment sur les générations concernées. Et vous savez que 85% des conducteurs qui sont aujourd'hui au régime spécial ne seront pas concernés par la réforme. Nous avons pris des engagements très clairs.
Pas tout à fait les chiffres que donnent les syndicats. Ils sont plutôt dans une fourchette d'autour de 70%.
Mais bon. Selon les entreprises, etc. Pourquoi nous avions pris cet engagement? Pour respecter ce qu'on appelle le contrat moral. C'est pas pareil d'être depuis 2 ans dans l'entreprise que d'être à 5, 6, 7 ans de la retraite. Et je le rappelle, aujourd'hui, tous les Français qui sont à 17 ans de la retraite ne seront pas concernés par le système universel. Donc nous avons été loyaux dans cette discussion. Nous discutons d'ailleurs très bien avec l'UNSA, avec la CFDT, qui conteste certains éléments de la réforme, notamment la dimension de l'équilibre.
Mais pas avec la CGT, vous ne parlez plus?
La CGT n'est jamais venue aux réunions. J'ai eu l'occasion de rencontrer le patron de la CGT Cheminots, Laurent Brun, mais n'est jamais venue s'agissant de la réforme des retraites. Il faut juste comprendre que la CGT Cheminots refuse absolument et ne demande que le retrait de la réforme des retraites. Moi, je dis que dans cette séquence, chacun doit avancer en responsabilité. La CGT Cheminots connaît parfaitement le projet du gouvernement. Nous avons dit être très ouverts sur les modalités, mais fermes sur les principes, et la CGT Cheminots le sait très bien.
Vous dites à la CGT, vous pouvez faire grève aussi longtemps que vous le voulez, on ne retirera pas la réforme.
Je leur dis de ne pas avancer masqué et de ne pas dire que c'est la faute du gouvernement si. La CGT Cheminots doit assumer si elle fait grève le 24, le 25, le 26. Je dis d'abord que ce n'est pas ce que disent les autres syndicats. Je dis que le gouvernement est ouvert à la discussion. Et je dis que depuis le début, nous avons dit que nous avions vocation à ce que les régimes spéciaux intègrent le régime universel, ce que nous allons faire.
Et donc vous dites, Jean-Baptiste Djebbari, aux usagers bloqués dans les transports, vous dites c'est de la faute de la CGT.
Non, je dis que chacun doit assumer ses responsabilités en démocratie. Et que c'est trop simple de dire ce que dit parfois la CGT Cheminots, c'est la faute du gouvernement, c'est le projet du gouvernement. Depuis le début...
C'est le projet du gouvernement qui est à l'origine de ce mouvement social.
Oui, mais depuis le début, nous avons eu une discussion extrêmement ouverte et très loyale avec l'ensemble des syndicats, y compris eux qui ne sont pas venus discuter avec nous. Nous leur avons dit, un, nous voulons la convergence des régimes spéciaux dans le régime universel. Nous allons faire en sorte de construire les bonnes garanties, clarifier les générations à venir, s'assurer du niveau de maintien des pensions. Donc nous avons été extrêmement clairs.
Une discussion avec l'ensemble des syndicats, vous dites Jean-Baptiste Djebbari, qui aboutit à quoi aujourd'hui? À l'opposition de l'ensemble des syndicats,
oui,
y compris les syndicats réformistes.
Et vous savez très bien, pour des raisons très différentes. La CFDT par exemple, mais l'UNSA aussi, au niveau national, veulent un système universel de retraite. Et vous le savez très bien. Il dit juste que dans la réforme qui a été proposée il y a 2 jours par le Premier ministre, il y a des éléments qui les irritent, notamment l'élément de l'âge d'équilibre. Mais ils veulent
l'âge d'équilibre
un régime
à 64 ans qui est négociable.
Ils veulent un régime universel pour toutes les raisons qui ont été exprimées dans le débat public du régime actuel qui présente un grand nombre d'inégalités. Et effectivement, ils discutent le sujet de l'âge d'équilibre, disant, un, qu'il y a des alternatives. Moi, j'écoutais avec attention Laurent Berger hier matin, qui disait qu'on pouvait travailler sur d'autres objets, sur le niveau des cotisations, etc., etc.
Porte qui a fermé par ailleurs le gouvernement sur le montant des cotisations.
Non. Et encore, porte qui reste ouverte au gouvernement. Encore hier après-midi, le Premier ministre, d'abord, s'est entretenu avec les syndicats, a dit que sa porte était ouverte. Et il a toujours dit que si les syndicats venaient avec une proposition alternative qui satisfasse l'objectif d'équilibre, qui n'est pas un objectif infamant, avoir un système en équilibre, c'est quand même quelque chose, à mon avis, d'abord de crédible sur le plan politique et de satisfaisant sur la durée. Et le Premier ministre a dit être tout à fait ouvert à recevoir les syndicats, à recevoir leurs propositions, et le cas échéant, si elles sont meilleures leurs propositions, il les fera sienne.
Pour en revenir à la question des régimes spéciaux, Jean-Baptiste Djebbari, la réforme prévoit une bascule dans quelques années pour les cheminots, pour les générations 80 ou 85, nés en 80 ou nés en 85. C'est sur la table, ça aussi, la date d'entrée, où ça pourrait être repoussé à plus tard. On sait que la clause du grand-père a été finalement écartée. Est-ce qu'elle pourrait revenir par la fenêtre?
Vous savez, depuis le début, je vais vous dire ce que j'ai dit au syndicat. Je leur ai dit, on a entre la génération 63 et la clause du grand-père, de la latitude pour poser le curseur au
là,
bon niveau.
Là, vous avez mis la barre au milieu, entre la génération 63 que souhaitait Jean-Paul Delevoye 80... et la clause du grand-père qui nous a emmené encore plus loin. Là, en gros, on est au milieu.
Nous avons fait en sorte de respecter ce contrat moral-là. Et nous avons dit, effectivement, toutes les personnes à 17 ans de la retraite. À 17 ans de la retraite, vous pouvez commencer à vous projeter, mais c'est quand même assez loin. La barre initiale, c'était 5 ans. À 17 ans de la retraite, vous n'êtes pas concerné par le système universel. Qui, d'ailleurs, j'ajoute, va emporter un grand nombre de droits nouveaux. Et je ne doute pas que certains moments...
Ce curseur-là, il est négociable ou pas ?
Ce curseur-là n'est pas négociable en soi. Nous avons dit, génération 85, vous l'avez dit, la plus grande partie des agents de la RATP et de la SNCF aujourd'hui ne sont pas concernés, notamment les conducteurs, ne sont pas concernés par le régime universel. Nous avons dit vouloir être très très clair, et j'ai fait des vidéos en ce sens à l'ensemble des agents, nous allons travailler très précisément pour dire exactement quel sera le niveau de pension des gens qui vont être concernés par le régime universel.
Ils le seront quand ?
Alors, c'est un travail qui est en cours actuellement.
Et dont on aura les résultats.
Et j'ai vocation à ce que ce travail soit assez abouti courant du week-end.
Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, vous restez avec nous, on s'interrompt quelques instants. Il est 9h20, voici Édouard Marguet pour le rappel de l'actu.
Dans le futur système universel de retraite, les policiers garderont un régime spécifique. Les syndicats obtiennent gain de cause après un rendez-vous au ministère de l'Intérieur. Ils suspendent donc leur mouvement en attendant une lettre de confirmation de Christophe Castaner. Dans les transports, la grève continue. Un TGV sur 4 circule en moyenne aujourd'hui. En Ile-de-France, la moitié des lignes de métro sont fermées. Les conservateurs triomphent au Royaume-Uni. Ils remportent la majorité absolue à la Chambre des communes. Selon des résultats définitifs, un mandat fort pour réaliser le Brexit, réagit Boris Johnson. Le vent violent fait des dégâts dans le sud-ouest. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont sans électricité dans le Périgord. La Corse et 14 départements sont placés en vigilance orange par Météo France.
France Info. Et tout est plus clair.
Jean-Baptiste Djebbari, mardi prochain, l'ensemble des syndicats appellent donc à défiler contre cette réforme. Ils ne seront pas seuls. À Lille, dans le cortège, il y aura une certaine Martine Aubry qui était notre invitée ce matin.
On le voit bien, les Français, ils demandent quoi dans cette réforme ? Moi, je suis pour la réforme. Ils demandent plus de justice, plus d'équité et de la clarté. De la clarté parce qu'autrement, eh bien, tout ce qu'annonce le gouvernement est anxiogène. Aujourd'hui, on comprend que ce n'est qu'à 64 ans qu'on pourra avoir retraite complète. C'est une réforme totalement libérale, mais comme tout ce qu'a fait le président de la République depuis qu'il est là.
Elle vous avait manqué, Martine Aubry ?
Beaucoup, évidemment. J'observe que les Français, aujourd'hui, partent en moyenne à 63 ans et demi. Et que c'est le fait de la loi Touraine. Donc je pense que les leçons des politiques qui, parfois, pour faire les vraies réformes, ont manqué soit de vision, soit de courage, je les écoute toujours avec beaucoup d'attention, mais je crois que les Français savent où s'en tenir. Moi, ce que je veux dire, juste ici, c'est que je pense quand même aussi aux millions de Français qui, chaque matin, galèrent pour, effectivement, prendre leur voiture, pour prendre le train. Et je veux leur dire ceci, c'est que la réforme que nous proposons, c'est une réforme en équité pour les Français. C'est une réforme qui va créer de nombreux nouveaux droits. Je pense d'ailleurs à la retraite minimale de 1 000 euros. Je pense à l'ensemble des droits qui vont être créés pour les femmes. Je pense à des populations en Haute-Vienne, les agriculteurs qui aujourd'hui, bien souvent, ont des niveaux de pension extrêmement faibles.
400, si c'est vrai, 500, pourquoi les Français ne le pensent pas aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion ?
Je pense d'abord, ils disent souvent des choses un peu différentes. Ils disent vouloir refonder en profondeur le régime de retraite. Ils disent souvent être inquiets pour l'avenir. Et je pense qu'il y a ça.
Très concrètement, Jean-Baptiste Djebbari, notre sondage d'Oxa Densu Consulting pour France Info ce matin dit que 68% des Français trouvent le mouvement de grève en cours justifié. Plus des deux Français sur trois soutiennent les grévistes contre le gouvernement.
Eh bien, ça veut dire qu'il faut encore convaincre. Et dans les réunions publiques que j'avais faites d'ailleurs dès 2017 sur ces sujets, parce que nous nous sommes engagés politiquement. Vous savez que le président Emmanuel Macron, dans son programme, avait mis sa volonté, s'était engagé à faire des régimes de retraite, un régime universel par répartition et par points. Le député que j'étais s'était engagé devant les Français dans des multiples réunions publiques et c'était un des sujets. D'abord, c'est toujours compliqué, le sujet de retraite.
Ça fait 18 mois que la concertation a été ouverte. Il y a une semaine d'ailleurs, avant le début du mouvement, c'était la même proportion de Français qui soutenaient les grévistes. Donc on voit bien que le gouvernement est inaudible.
Ouais, soit soutien et sympathie, et le chiffre que vous dites, c'est soutien et sympathie. C'est pas tout à fait différent. C'est pas tout à fait pareil d'avoir de la sympathie pour un mouvement que de le soutenir. Et si vous posez la question de savoir si les Français ont de la crainte pour l'avenir en général, ils répondent plutôt oui. Moi, ce que je veux dire sur mon expérience personnelle, et j'en ai fait encore l'expérience dans la séquence des Gilets jaunes l'année dernière. Le sujet des retraites, c'est toujours un sujet compliqué et on l'aborde par la crainte et l'anxiété. Peut-être aussi parce que ça projette des choses de la fin de vie, etc.
Peut-être aussi parce que l'incertitude entretenue par le gouvernement sur sa réforme a accentué cette anxiété.
Ce que je veux dire, c'est que on a toujours réussi dans les réunions publiques que j'ai faites, toujours réussi à conclure sur le fait que le système d'aujourd'hui, il était assez inefficace, il était créateur d'inégalités, il fallait le changer. Après, effectivement, peut-être que nous avons tardé à communiquer, mais en tout cas, aujourd'hui, l'architecture, elle a été posée très clairement par le Premier ministre. Les Français savent parfaitement s'ils sont en dehors ou dedans, et ils savent parfaitement aussi que ce système, il va être créateur de nombreux droits nouveaux, notamment pour les femmes, notamment pour les gens qui, toute leur vie, sont au SMIC. Et ça, il faut le dire, cette réforme, elle va améliorer substantiellement la situation des 40% des Français les moins aisés d'entre nous. Et c'est donc une avancée sociale considérable.
Jean-Baptiste Djebari, hier, les policiers qui s'inquiétaient pour certaines mesures qui sont liées à leur régime de retraite, le fait qu'ils bénéficient notamment d'une année de cotisation à chaque fois qu'ils travaillent pendant 5 ans, ont été reçus par leur ministre. À la sortie, coup de baguette magique, le mouvement s'arrête, les policiers suspendent leur mouvement. Est-ce que c'est une première brèche qui veut dire que finalement, ce que vous dites depuis des semaines, un seul régime pour tout le monde, c'est en train tout doucement de s'effacer.
Non, les policiers voulaient très précisément que l'ensemble de la communauté policière, pour le dire simplement, bénéficie du départ anticipé et les conditions particulières.
Ce qui a Vous reconnaissez qu'il y a donc des exceptions à la règle ?
Non, nous avons toujours dit que pour les catégories actives, les policiers, les gendarmes, les militaires, les surveillants de prison, un certain nombre de métiers de sécurité exposés, avec une dimension opérationnelle très forte. Pour ces métiers-là, nous avons toujours dit qu'il était normal de construire les bonnes garanties. Il se trouve que la proposition que nous avions faite pour les policiers est apparue incomplète, que la discussion a eu lieu, et je l'ai toujours dit, mais le gouvernement est dans une position de trouver les bons compromis. Ce beau compromis a été trouvé, ainsi soit-il.
La SNCF, citée ce matin par nos confrères d'LCI, affirme que certains wagons, notamment du RER en région parisienne, sont réservés aux personnes les plus vulnérables qui souhaitent voyager. Est-ce que vous confirmez, tout d'abord ?
Alors, je n'ai pas cette information, mais je vais aller la chercher.
Est-ce que ce serait une bonne idée ?
Eh bien, ça apparaît effectivement une idée de bon sens, mais je prends la proposition, je vais m'enseigner et je reviendrai vers vous.
Réserver des wagons aux personnes les plus fragiles, donc à qui ? Aux femmes, aux enfants ?
Oui, effectivement, les personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes, les enfants, traditionnellement, c'est à ces personnes-là que sont réservés les wagons. Mais encore une fois, une idée de bon sens, je parlerai notamment à Jean-Pierre Farandou et à Catherine Guilloire pour voir si opérationnellement
et la patronne de la RATP
absolument est possible.
On a vu, Jean-Baptiste Djebari, des incidents dans des dépôts de bus ces derniers jours, notamment une vidéo qui a beaucoup tourné hier sur des personnels non grévistes de la RATP, des chauffeurs de bus qui étaient injuriés, hués par des personnels grévistes. La CGT a d'ailleurs publié un communiqué hier soir pour dénoncer ces comportements, mais aussi pour considérer que c'était le gouvernement qui était responsable de cette montée de la tension.
Mais c'est ce que je disais, c'est il ne faut pas avancer masqué. Quand vous avez des personnes qui se revendiquent de votre syndicat et qui pratiquent l'intimidation sur leurs collègues, qui pratiquent l'insulte homophobe, cela est d'abord illégal, c'est répréhensible pénalement. Et moi, j'ai demandé systématiquement ce que la RATP a fait, de porter plainte, de saisir le procureur de la République.
Ce qu'elle n'a pas fait, semble-t-il, pour l'instant.
La RATP a saisi le procureur de la République.
Elle a saisi le procureur.
Et c'est normal, nul ne peut... Le gouvernement, il accepte parfaitement qu'on conteste sa politique, sa réforme, dans la rue, par la voie de mobilisation, par l'exercice normal du droit de grève. Mais là, y compris les coupures d'électricité, le fait d'intimider ses collègues, le fait de les insulter, le fait de mettre de la pression psychologique, le fait de bloquer des dépôts, je le dis, c'est illégal, c'est répréhensible pénalement, et systématiquement, j'ai demandé à la RATP et à la SNCF de porter plainte, parce que les gens qui pratiquent, qui contournent la loi, doivent évidemment en répondre.
Ça veut dire que vous enverrez systématiquement les forces de l'ordre lorsqu'il y a des blocages d'entrepôts ?
Tous les dépôts, chaque matin, sont débloqués. Vous avez effectivement des tentatives sur 3, 4, 5 dépôts les matins. Systématiquement, en coordination avec la préfecture de police de Paris, nous faisons débloquer les dépôts, évidemment.
Au risque là aussi qu'il y ait des incidents, des violences.
Non mais la France est un état de droit, donc il n'y a pas eu d'incidents et de violences. Nous disons simplement que d'abord, ces centres dépôts, ils appartiennent aux citoyens français, que nous reconnaissons parfaitement, et c'est normal, l'exercice normal du droit de grève pour ceux qui contestent la politique du gouvernement, mais que nous ne permettons pas à des gens qui contestent la politique du gouvernement, d'empêcher leurs collègues d'aller travailler, de les insulter ou de bloquer les bus qui tentent de sortir pour aller satisfaire les besoins des milliers de Français, des millions de Français qui, en ce moment, galèrent dans les transports.
Et si le blocage des transports à la SNCF ou à la RATP perdure, Jean-Baptiste Djebari, est-ce que vous irez jusqu'à réquisitionner des personnels grévistes comme le réclame la droite ?
Ouais, alors d'abord réquisitionner, c'est compliqué, mais je le dis, nous allons observer très attentivement au gouvernement ce qui va se passer dans les prochains jours. Et le cas échéant, nous apporterons les éléments de réponse complémentaires, y compris par la loi, de manière à faire en sorte que aujourd'hui, ceux qui dévoient, qui contournent l'exercice du droit de grève, nous puissions construire les...
Y compris enfin, par la loi, ça veut dire que la loi pourrait être réformée pour imposer un service minimum, un service garanti.
Ça, c'est toujours compliqué, mais il y a plein de façons d'améliorer la situation. Plein de façons de le faire, d'améliorer la situation des Français pour assurer plus de continuité du service public. Il y a des éléments, effectivement, il y a des façons aujourd'hui qui sont utilisées de contourner l'exercice du droit de grève. Nous sommes attentifs à tout cela. Et je le dis, le gouvernement regardera la meilleure façon d'apporter les bonnes réponses aux Français.
Est-ce qu'il doit y avoir, Jean-Baptiste Djebbari, un geste sur les abonnements à la RATP, à la SNCF, notamment les billets lorsque les trains ne roulent pas sont remboursés, mais pour l'instant, il n'y a rien sur les abonnements.
Oui, alors traditionnellement, après une grève longue...
On ne saura qu'à la fin.
En général, puisque vous savez que c'est la région qui organise les transports, notamment en Île-de-France, et qu'on parle notamment du Pass Navigo, et en général, 50% des abonnements sont remboursés, parfois jusqu'à 100%, mais ça c'est la responsabilité de la région, de Madame Valérie Pécresse, en lien avec la RATP, avec qui elle a noué un contrat, mais traditionnellement, c'est ce qui se passe en cas de service très dégradé, 50% des abonnements sont remboursés aux Français, et évidemment tous les
vous
billets qui sont
vous souhaiteriez qu'on aille au-delà de ça, vu l'ampleur des perturbations depuis 9 jours.
Il y aura une discussion à avoir qui sera menée par à la fois la RATP, la SNCF et la présidente de région Valérie Pécresse, mais évidemment le service est très dégradé. Et d'ailleurs, les discussions contractuelles ont lieu entre la région aussi et la RATP pour des services qui n'ont était que partiellement offert.
Vous évoquez la gêne dans les transports pour les usagers, Jean-Baptiste Djebbari. De profession, vous êtes pilote de ligne.
Absolument.
Vous êtes ou vous étiez syndicaliste, non syndiqué au syndicat national
des cadres. J'étais adhérent au SNPL, absolument.
Vous n'avez jamais fait grève?
Non.
Jamais?
Non.
Ça s'est déjà vu, le transport aérien perturbé par des grèves du syndicat national des cadres. Vous jamais.
Adhérent au SNPL et je n'ai jamais fait grève parce que je n'ai jamais pensé que les mots d'ordre qui étaient donnés au moment où ils existaient quand j'étais dans cette profession me poussaient effectivement à me mobiliser de la sorte.
9h10, dans un instant, on va parler de ce qui se passe en ce moment chez Uber, avec des centaines de témoignages de femmes qui affirment avoir été agressées par leur conducteur, Jean-Baptiste Djebbari. Vous nous direz ce que vous pensez pouvoir faire. On parlera également des bouchons monstres depuis quelques jours autour de certaines villes françaises. D'abord, le rappel de l'actualité avec Édouard Marguier.
Le Brexit sera réalisé à temps le 31 janvier, promet Boris Johnson après le triomphe des conservateurs. Il remporte la majorité absolue à la Chambre des communes, du jamais vu depuis Margaret Thatcher. La plupart des raffineries sont au ralenti avec la grève contre la réforme des retraites. La CGT bloque 5 des 8 raffineries en France. Plus une seule goutte de carburant ne sort de celle de l'Avera, près de Marseille, dit le syndicat. Rien ne va dans cette réforme, dit sur France Info l'ancienne ministre du Travail, Martine Aubry, la maire de Lille, candidate à sa réélection. Est par ailleurs en tête de notre sondage Ipsos Soprasteria pour France Info, France Bleu, La Voix du Nord. Elle devance le candidat Europe Écologie Les Verts et la candidate de La République En Marche. 30 000 foyers n'ont plus de courant en Dordogne, 11 000 dans les Landes après les fortes rafales de vent. 14 départements du Sud-Ouest sont en vigilance orange, alerte également en Corse.
France Info. Et tout est plus clair.
Jean-Baptiste Djebbari, des centaines de femmes racontent ces derniers jours sur les réseaux sociaux les agressions qu'elles auraient subies, y compris parfois des agressions sexuelles et des viols de la part de chauffeurs Uber. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Mais d'abord, Uber a été reçu hier par Marlène Schiappa, donc secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, et qui a mis en place avec Uber, mais d'une manière générale avec l'ensemble des plateformes, les bonnes formations, la bonne façon de faire la bonne information.
Là, c'est pas uniquement une question de formation.
Non, bien sûr, mais évidemment, il y a ce qui a trait au régime pénal. Et évidemment, toutes les plaintes sont déposées. Évidemment qu'il faut sensibiliser plus fortement les chauffeurs à avoir
le bon comportement. Dans certains cas, des femmes racontent que lorsqu'elles ont appelé Uber, on leur a proposé de rembourser la course.
Oui, c'est évidemment, c'est évidemment insupportable. C'est pénalement répréhensible. Et donc, à chaque fois que cela est le cas, les plaintes doivent être déposées et je crois que c'est ce qui a été aussi rappelé très fortement hier par la secrétaire d'État. Mais il y a aussi une dimension de prévention et d'information à la fois des chauffeurs dans le comportement qu'ils doivent avoir, évidemment de la bonne information des usagers et puis toutes les mesures qui sont prises actuellement sur les numéros d'appel d'urgence, la façon de pouvoir très rapidement être secouru dans ces cas-là. Je crois que Marlène Schiappa s'est engagée très fortement sur le sujet et a eu raison de rappeler encore hier les dispositifs qui sont à disposition de ces femmes. Et vous savez que c'est un sujet de maintenant avec Uber, mais le sujet de l'agression des femmes dans les transports, c'est malheureusement un sujet qui est connu depuis quelques temps. Et en 2016, d'ailleurs, dans le précédent quinquennat, une loi avait été votée, la loi Savary, qui avait déjà apporté un certain nombre de réponses au travers de la vidéosurveillance et de certains dispositifs pour améliorer la sécurité des femmes dans les transports.
Renaud Dely.
Jean-Mathis Djebbari, votre collègue du gouvernement Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé de la réforme des retraites, confie ce matin à nos collègues, à nos confrères de Libération, qu'il a songé à démissionner. On sait que Jean-Paul Delevoye s'est engagé à rembourser une somme, une rémunération qu'il continuait de percevoir alors qu'il était membre du gouvernement. Ce qui n'est pas simplement contestable, mais ce qui est illégal au regard de la Constitution.
Je crois d'ailleurs qu'il l'a remboursé, cette somme intégralement. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Il a dit avoir commis un oubli, et il a dit avoir réparé cet oubli.
Si vous voulez, moi je... C'est pas plus grave que ça, un oubli qui est anticonstitutionnel et donc potentiellement illégal, c'est juste un oubli.
Moi, je vous dis ce qu'il a dit, et je crois que je vais m'en tenir à ça. Il a dit ne pas avoir, quand il a fait sa déclaration à la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique, de ne pas avoir effectivement notifié cette rémunération, ou en tout cas que cette rémunération, plutôt qu'il a notifiée, ne lui a pas été notifiée comme étant non conforme. C'est un peu compliqué tout ça.
Mmh. Mais nul n'est censé ignorer la loi, y compris un ministre, surtout un ministre.
Non, mais moi, je veux pas... Je veux pas du tout évacuer le sujet. Je dis ce que Jean-Paul Delevoye a dit. Il a dit j'ai commis un oubli. On ne m'a pas notifié l'incompatibilité et donc j'ai réparé cet oubli ou cette non-conformité.
Ça fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'oublis, parce qu'il avait aussi oublié de déclarer qu'il présidait bénévolement un institut de formation dans le monde de l'assurance. Jean-Paul Delevoye, faut rappeler que c'est pas un personnage du nouveau monde politique. Il a 40 ans de carrière politique derrière lui. Il a déjà été ministre sous Jacques Chirac avant la création de la Haute Autorité sur la transparence financière.
Et donc, je vous propose de le recevoir pour qu'il nous explique lui-même les raisons.
Une invitation a été lancée, rassurez-vous, Jean-Baptiste Djebbari. S'il était mis en examen, il ne resterait pas.
Écoutez, moi, je suis ni juge, ni procureur, ni commentateur politique. Vous savez très bien qu'il y a un cadre qui est posé, un cadre informel d'ailleurs, que tout membre du gouvernement mis en examen quitte le gouvernement, démissionne du gouvernement. Ce cadre, il a été posé, il a d'ailleurs été appliqué
à plusieurs ministres, dont François Bayrou.
À plusieurs ministres, y compris dans les quinquennats précédents.
En l'occurrence, il y a une plainte déposée par l'association Anticorps,
j'ai vu, ouais.
Donc cette plainte pourrait aboutir à éventuellement une mise en examen.
Mais moi, je suis très respectueux du droit. Le droit, il s'applique évidemment à ce gouvernement comme aux autres. Et donc, le cadre qui a été posé, évidemment, s'applique ici. Si vous voulez parler à Jean-Paul Delevoye, je vous propose de l'inviter.
Vous êtes ministre de tous les transports, donc du rail, dont on a beaucoup parlé, mais aussi des routes. Je pense à tous ceux qui nous écoutent en ce moment dans les bouchons. Est-ce que vous avez un plan, si ça continue, les centaines de kilomètres chaque matin autour de certaines grandes villes? Est-ce que notamment vous pourriez généraliser l'ouverture des couloirs de bus sur certaines autoroutes aux voitures qui transportent au moins 3 personnes et qui donc pratiquent le covoiturage?
Nous l'avons fait effectivement sur les accès parisiens, parce que c'est là où se situent les plus gros nœuds de trafic, donc sur l'ensemble des axes autoroutiers qui amènent au périphérique, sur la 6, sur la 10, sur la 1. Nous avons ouvert les voies réservées au covoiturage, à ceux effectivement qui transportent plus de 3 personnes. Le trafic est important en ce moment, mais ça a plutôt bien fonctionné la deuxième journée. Et donc nous réfléchissons encore effectivement aujourd'hui à toutes les hypothèses pour améliorer ou fluidifier le trafic qui, comme vous le dites aujourd'hui, comme les autres jours, est très saturé.
L'écart Macron que vous aviez mobilisé au début, c'est terminé, ça a fait un flop?
Non, ça marche très bien entre les métropoles. Il y a plus 10 et plus 15% sur les grandes lignes.
Oui, mais ça n'y est pour rien. Les lignes normales qui sont ouvertes et qui sont plus fréquentées.
On y est pour rien quand ça marche bien et on y est pour tout quand ça dysfonctionne. Donc, et sur
il y avait une tentative pour que ces bus desservent les villes aussi.
Ce que j'avais proposé, c'est effectivement que les cars Macron partent de Saint-Denis, traversent Paris et puis aillent jusqu'à Massy pour avoir comme ça une meilleure desserte de Paris. Et nous avons rendu le dispositif possible.
Et ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché parce que Madame Hidalgo, la maire de Paris, n'a pas voulu ouvrir les dessertes. Moi, j'avais proposé qu'il y ait 3 dessertes, Gare du Nord, Châtelet et d'Enfer-Rochereau.
Je crois que les bus Macron n'ont pas le droit aujourd'hui de s'arrêter en ville, tout simplement.
Ils ont
c'est la loi,
de s'arrêter à la gare de Bercy,
qui est la gare routière de Paris.
Absolument, ce que Flixbus a fait la journée pendant laquelle il a opéré. Mais effectivement, la desserte, le fait d'autoriser les dessertes, c'est du ressort de la maire de Paris qui n'a pas souhaité ouvrir les dessertes au car Macron, à Flixbus et à Blablacar, pour le dire très concrètement.
Vous allez remettre le sujet sur le tapis ou c'est terminé?
Non, mais d'abord, nous observons tout cela très attentivement. Nous préparons peut-être un cadre un peu différent, avec l'utilisation possiblement d'autres outils. Donc nous observons tout
lesquels?
Nous regardons s'il est possible d'utiliser par exemple les voies réservées, des bus. Nous regardons un ensemble de dispositifs qui pourraient relever à la fois du ministère de l'Intérieur et de la mairie de Paris pour voir, parce que mon souci à moi, chaque jour, c'est quand même de permettre aux Français d'avoir des moyens complémentaires à la RATP et à la SNCF de se déplacer. C'est ça mon sujet. C'est pas de faire des petites guéguerres politiques. Et aujourd'hui, je vois que souvent, en tout cas certains, choisissent de faire de la politique plutôt que de s'occuper de la fluidité de la vie des Français.
Et si la situation ne se débloque pas à la SNCF, par exemple, vous invitez donc les Français, les départs en vacances, c'est dans tout juste une semaine, à se tourner vers les cars Macron pour partir en vacances ?
Mais vous savez, d'abord, les Français s'organisent et ils sont intelligents. J'ai écouté dans d'autres émissions que certains et beaucoup d'entre eux s'étaient déjà organisés pour les vacances de Noël au regard de la situation qui existait aujourd'hui. Et donc, nous allons continuer à la fois à discuter et à construire les solutions alternatives. C'est ça la responsabilité politique.
Merci à vous Jean-Baptiste Djebbari et bonne journée à vous.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.